Bonsoir, bienvenue et pour cette première de l'année, je propose de tout recommencer. Revenir à la source de ce qui fait de nous des humains sur deux pieds. Le soleil venait de se lever, il n'y avait pas la Miricorée, mais dès l'aube de l'humanité, certaines se sont faites arnaquer. On leur a dit, pousse-toi de là, regarde mes poils, regarde mes bras, ce territoire il est à moi, de toute façon je suis bien plus fort que toi. Le mammouth j'irai le chasser et toi tu restes près du foyer, t'as des moutards, faut les élever. Et puis tu saignes une fois par mois, ça porte malheur, c'est dégoûtant ce truc qui coule, tout ce sang. Profites-en pour me faire à dîner, quand je rentre le soir, je suis affamée, débarde-toi pour que ce soit bon, femme, je le veux, aux petits oignons. Je te jure, je peux péter un plomb. Alors je sais pas si on a moufté, j'y étais pas, je suis désolée, mais peut-être bien qu'on a essayé, enfin ça n'a pas dû marcher. On a beau être en 2020, les choses n'ont pas bougé d'un brin. Les femmes sont toujours en cuisine, mais les hommes dans les magazines, eux distingués par le Michelin, à nous le travail quotidien. Les lauriers, on peut en rêver, on pourrait même les mériter. Pour les avoir, on peut se brosser, quand je vous dis qu'on se fait arnaquer.
France Inter. Julia Foyce, pas son genre.
Quel rapport entre le patriarcat et une entrecôte? Où se cachent les chefs? L'agriculture est-elle une affaire de mecs? Voilà les questions qui ouvrent votre essai. Féminisme, Nora Bouazouni, pardon, bonsoir. J'ai failli buter sur le féminisme. Je me suis dit que j'allais le faire à un moment ou à un autre de l'émission, donc c'est fait. Bonsoir.
Ça arrive à tout le monde, bonsoir.
À vos côtés et avec nous, le chef Bertrand Grébaud, restaurateur et cofondateur, entre autres, du Septime à Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça fait sans doute encore un petit peu mauvais genre, hein, une femme dans les cuisines d'un restaurant. On va le voir ce soir. On essaiera bien sûr de comprendre pourquoi, de proposer des pistes aussi pour que ça change. Mais d'abord, votre mauvais genre, à vous, ce serait quoi, Nora Bouazouni?
Ben, pour moi, mauvais genre, ça veut littéralement dire faire mauvaise impression. Mmh. Et du coup, par exemple, mes cheveux courts, ça fait mauvaise impression auprès de certaines personnes qui croient voir tout de suite mes préférences amoureuses ou sexuelles, ouais, et m'insulter ou me parler selon. Et aussi le fait que je parle fort. Voilà, je parle fort. Ma famille parle fort, donc je parle fort et je dis des gros mots.
Mais au fond, ce sont deux caractéristiques qu'on dit masculines.
Exactement.
Et ça, on n'a pas le droit et ça fait mauvais genre quand
sur
on est une femme.
Voilà.
C'est ça. Les gros mots aussi, tant mieux, moi j'en dis plein, on va en dire peut-être ce soir, on sait jamais. Vous, Bertrand Grébaud, votre mauvais genre à vous, votre petite transgression du quotidien, ce serait quoi?
Alors, je sais pas si ça ne me touche pas que moi, mais c'est quelque chose qui touche tous les gens qui font mon métier, et ça touche aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les émissions culinaires, c'est ce tic de langage abominable qui consiste à dire on est sûr, on part sûr, on est sur un chardonnay, on est sur la fraîcheur, on est sur une blanquette. Je trouve ça abominable et je trouve que ça fait vraiment mauvais genre.
Et ben voilà, on est sur une coupe garçonne, donc nous voilà parés pour nous glisser dans l'arrière-cuisine des restaurants pour nous accompagner. Voici de très très mauvais garçons, mais les meilleurs en vrai pour du très très bon son.
Marseille, c'est moi papa. Oh, c'est
quatre,
moi
quatre, mame.
Oh, papa.
I am, yeah, c'est quatre.
C'est moi papa.
Yeah. Ok, yeah. Bugatti, Dugatti, Fendi, Papi. Pour ça que je charbonne à vie, pour ça que je charbonne à vie. Je rappe depuis le col de Canto dans la ville du 9000. Calaché depuis petit, oh hasi. Je me suis fait tout seul et tout pour les purple. J'ai 5 hermanos à la case, à 6 bulls, bulls. Capuché dans le Porsche, on rêvait d'y croire. Sous un ciel noir, un peu de shit et on croquait le monde, fallait le voir.
La zone du connais, dur de décoller. Même quand tu t'es marié, tu restes au cachet.
Je vois ton trou est à la peine, beaucoup trop de phases à la traîne. Gage des rimes à la pelle, plus de 100 000 à la pelle. Pas en une n'importe laquelle, vois les trésors qu'elle recèle. On t'a déjà en visuel, les gars, les gars, faux points rouges sur tes ailes. Parti du bas de l'escalier, même du fond du panier. Tu peux pas le nier, screw la joue avec le sablier. Dur de s'aligner, lorsque tes boules tous mes alliés. Bien sûr on veut le beurre, mais pas dans n'importe quel beurrier. On reste des MC meurtriers derrière les meurtrières. Mes respects aux familles de tous ceux qu'on a meurtrières. On rentre en session tous bouillants comme la lave. Au mic, ça part en live et ça tue à chaque salve.
Des bandes, des blocs au bac des 10, 10 ans qui nous séparent. On veut tout prendre, tu vas tout rendre, disons qu'on veut notre part. Parcours est mérité, on a taffé, t'as pas aidé. Toujours se relever malgré les grosses claques et les faux départs. Je suis sur le ring, je suis sur la ligne, tu as 3 points d'écart. Shoot avant le buzzer, tire la langue avant la victoire. Man, self-made depuis le départ. Étoilé depuis l'époque, oui, de Bernard. C'est Marseille enfoiré, sa production de talent. On sort tout droit de l'école, de la plume en diamant. Mon sang se balade de la nuit comme le phare à TUAM. Poto, t'as reconnu l'équipe, c'est psychiatre et IAM.
Qui a élevé ses fleurs du bitume pour en tirer le parfum?
C'est moi, papa.
Qui a mené ses sons en attitude? Tu le sais bien, enfin.
C'est moi, papa.
Je suis psy, self-made man. Self-made man, je suis psy, self-made man.
toujours avec les maps, autorisation de nos couilles. J'ai pas attendu que tu crois en moi pour croire en moi, apparemment ça parlait mal. Là ça parle moins, t'as pas la moindre idée de tout ce qu'on a paré, man a parlé. Mais personne n'était paré à nous voir parader avec notre part du gâteau. Rien n'est gratos, tout se paye doublement quand tu viens de ces quartiers où la misère veille. Je n'essaye pas de nous victimiser ou bien de minimiser, mais chez nous la réussite est une voiture rayée. Que Dieu bénisse Aya mes psychiatres. Combien de bâtons dans les roues nos chars d'assaut ont eu dans les pattes. On s'est fait tout seul, le front au sol, les nuages sous la semelle, malgré les plombs sur les ailes.
Si tu n'as pas abdigé que la carrière je m'en tape, c'est que t'as pas su me cerner. Mon meilleur morceau c'est le dernier, c'est ça. Seul dans la jungle métropolitaine, j'ai pris la zig de France à coups de schiaff napolitaine. Jeune, j'ai dit que la vie est une chienne, sûrement de très non, car j'ai posé mon cul de fainéant pour avancer. Un jour le sort j'ai dû le devancer, ils ne savaient que penser, certains que j'étais là pour me venger. Rime sans chasse à paparazzi, pénétrer les foyers, tourner tous les papas racistes qui disaient c'est une belle merde. Maintenant levez les yeux, appelez-moi Mr. Selfmade.
Qui a élevé ces fleurs du bitume pour en tirer le parfum?
C'est moi papa.
Qui a mené ces sons en attitude? Tu le sais bien enfin.
C'est moi papa.
Je suis ici Selfmade man, Selfmade man. Je suis ici Selfmade man,
C'est moi papa. C'est moi. C'est moi, papa, oh c'est moi, papa, c'est moi, papa, oh c'est moi, papa, c'est moi, papa, oh c'est moi, c'est moi, papa.
Vous aurez reconnu évidemment les seigneurs du rap français, c'était I Am et les psychiatres de la rime en featuring. Ce titre c'est Selfmade Man, premier extrait de leur tout dernier album Yasuke, ça fait du bien, hein. Vous êtes sur France Inter, soyez les bienvenus.
Pas son genre.
Pourquoi la cuisine pour les hommes?
Eh bien, parce que je pense que les hommes sont un peu déshérités dans la vie. Vous savez qu'on est, on est incapable de trouver un steak à point chez la femme dont le mari aime le beefsteak saignant. Elle le fait toujours, le beefsteak, au goût de son mari.
Enchaînons.
Les hommes déshérités du steak à point, c'était Catherine Langer et Raymond Oliver sur l'ORTF. Allez hop, on enchaîne. Donc avec nous en studio pour parler de rapport de genre en cuisine, la journaliste Nora Boisouni, autrice de Féminisme, notre livre de chevet hein, cette semaine, je vous le dis tout net. Mais également Bertrand Grébeau, chef et fondateur du Septime à Paris. L'archive qu'on vient d'entendre date de 1958. Donc on adorerait se dire que ce qui se passe au XXe siècle reste au XXe siècle. Hein. Bertrand Grébeau, si je vous parle du dernier colloque du 50 Best, l'équivalent britannique du guide Michelin, c'était en septembre dernier. On a un parterre de chefs, il n'y a quasiment que des hommes. Éclate alors un échange assez vif entre Yannick Aleno et vous-même. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est dit à ce moment-là, ce qui s'est joué?
Alors, ce n'est pas vraiment entre lui et moi que ça s'est joué, mais c'est juste... Il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui a demandé pourquoi il n'y avait que des hommes pour débattre sur la cuisine française ce jour-là. Alors le choix sans doute maladroit du 50 Best, c'était d'avoir pris les 5 chefs présents dans le classement. Bon, ça mettait aussi en lumière qu'il n'y avait pas de femmes dans le classement. Hein. Et, du coup, on s'est retrouvé entre hommes à débattre de la cuisine française. Et Yannick Aleno a démarré sa réponse plutôt maladroite par « l'ADN des femmes, c'est d'enfanter ». Avec une série d'explications derrière. Hein. Il faut pas non plus réduire son intervention à ça, mais c'est ça qui a fait... beaucoup de bruit, et évidemment j'ai réagi.
Puisque... Lui a dit qu'il y a des freins structurels à ce que les femmes occupent des postes de chef en cuisine, c'est qu'elles ne veulent pas travailler le soir, parce que le soir elles vont s'occuper des enfants.
Voilà, alors ça part du principe, sur un bon vieux modèle patriarche judéo-chrétien, que les hommes ne peuvent pas faire de sacrifices eux aussi, et du coup qu'on ne peut pas couper la poire en deux et s'en occuper tous les deux des enfants. Puisque, en fait, moi j'ai réagi puisque je partage ma vie avec une femme chef et que d'office...
Tatiana Leva qui est chef au Double Dragon.
Et au Servant. Et du coup, on a, dans notre situation, la comparaison a été immédiate et il n'y avait aucune raison qu'elle rogne davantage sur son temps de travail que moi. Donc on a dû mettre en place quelque chose de très partial dans la façon dont on organise nos semaines et nos soirées. Donc...
Pour s'occuper des enfants, je précise que vous en avez
deux. Pour s'occuper des enfants. Ouais, ouais, non, parce que, hormis le temps de l'accouchement, ce temps incompressible de l'accouchement et des 3 mois qui suivent, le reste du temps, il n'y a aucun problème à partager le temps. Donc, du coup, c'est ça qui m'a fait réagir. Et ce que ça met en lumière, c'est que le modèle de chef tel qu'il est, donc dans sa génération et celle d'avant, est d'une certaine manière, mais qu'aujourd'hui on peut en créer un nouveau.
Ce que ça met en lumière aussi, c'est que pour l'instant, la restauration reste un milieu éminemment machiste. C'est mon point de vue. Est-ce que vous le partagez, Nora Boisouni?
Oui. Bah, je sais même pas si c'est un point de vue. Pour le coup, on a des chiffres qui montrent qu'il y a quand même, on en parlait avec Bertrand juste avant de prendre l'antenne. Par exemple, dans les écoles d'hôtellerie-restauration, une grande école comme Ferrandi, qui est à Paris notamment, et plusieurs campus, on voit qu'il y a quand même une sacrée parité, on va dire, filles-garçons en apprentissage.
Ouais.
En CAP, je parle, hein, je parle pas apprentissage post-bac, etc. Que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, il y a même d'ailleurs plus de filles en pâtisserie. Et puis en fait, il y a quand même plus de chefs FS hein, en France que de chefs FE. Et donc on se demande où est-ce qu'elles sont passées, toutes ces femmes qui étaient en formation, pourquoi on ne les voit pas dans les cuisines des restaurants et a fortiori sur les couvertures des magazines, à la télé, etc.
Alors ça, c'est ce qu'on observe dans un certain nombre de secteurs, hein, le fait que les femmes sortent aussi diplômées, voire plus diplômés que les hommes, mais qu'à l'arrivée, il y a toujours ce plafond de verre qui bloque leur ascension professionnelle. Qu'est-ce que le milieu de la restauration a de spécifique? Vous écrivez par exemple, Nora Boisouni, que l'alimentation en fait a toujours permis d'asservir les femmes. Pourquoi? Comment? En quoi?
Mais on part déjà de l'agriculture, par exemple, hein, où les propriétaires terriens sur Terre, je crois que c'est seulement 20% des femmes hein, qui sont propriétaires, alors qu'elles représentent 43% de la main-d'œuvre agricole. Et je parle du monde entier, hein, pas que de la France. En France, j'ai pas les chiffres hyper récents là, de cette année, mais je crois qu'il y a 2-3 ans, on était à 25% d'agricultrices. Mmh. Ce qui est quand même. Alors on va me dire, c'est beaucoup, c'est comme au cinéma. Ah oui, en France, on a 25% d'agricultrices, ah, c'est beaucoup. Bah oui, mais c'est pas assez en fait. Hein, oui. Donc on va pas se féliciter pour 25%. Agriculturellement, on le voit aussi sur les injonctions à la nourriture, à la minceur chez les femmes. Donc on leur dit de surveiller ce qu'elles mangent, etc. Y a des clichés hein, quand on parle d'une cuisine de femme. Qu'est-ce que c'est une cuisine de femme? Je sais pas, parce qu'il y a un bâton de rouge à lèvres sur l'assiette. Une cuisine d'homme, du coup, c'est quoi en fait? C'est des, je sais pas ce que c'est. Du coup, tout le monde n'a pas de vagin ou de pénis, hein, donc on ne sait pas ce qu'est une cuisine d'homme. Mais sur la nourriture, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que les filles dès le plus jeune âge doivent faire le travail du care, donc prendre soin d'eux, donc nourrir littéralement la famille, par exemple.
Bertrand Gribaud, je vous ai vu lever les yeux au ciel et soupirer.
Non, mais évidemment, on attribue encore, de toute façon, la cuisine prestigieuse, créative des restaurants aux hommes, et puis la cuisine nourricière, ménagère aux femmes. Donc ça, on est encore quand même en plein dedans. Et puis par ailleurs, on a décrété qu'il y avait une cuisine dite féminine et une cuisine dite masculine. Alors la cuisine féminine, ce serait quelque chose d'assez édulcoré, aromatique, gentiment acidulé. Et puis la cuisine masculine, ce serait quelque chose de franc, de relevé, d'assaisonné, de gourmand. Alors que ça n'a rien à voir avec le sexe.
Surtout que suivant ces critères, si je comprends bien, vous faites plutôt une cuisine féminine.
Alors, et en plus, dans mon cas, c'est un exemple assez parfait, puisque je dirais que ma femme fait une cuisine plutôt masculine et moi plutôt féminine.
Il y a ce chiffre qui ouvre d'ailleurs votre livre, Nora Boisouni, ce chiffre de 94% de chefs qui sont des hommes. Comment vous l'expliquez? Ou alors, ma question va être un peu plus tordue, quels sont les arguments qu'on avance régulièrement pour expliquer cette archi-domination masculine? Bah, chef,
on en parlait au début, la soi-disant pénibilité du travail. Alors, soi-disant, dans le sens, c'est un travail qui est très pénible, hein, mais pourquoi les femmes seraient moins capables que les hommes d'être en station debout pendant 12 heures?
A priori, c'est plus valable. Hein, ça.
Oui, parce que les ustensiles
fourneaux
ont changé, la hauteur
n'est plus.
Voilà, on n'a pas des marmites en fonte énormes à transporter toute la journée. Et puis, pourquoi les femmes auraient une moindre résistance que les hommes? Et aussi, on parlait des freins.
Vous objectera le muscle, la différence musculaire.
Oui, enfin, je mets au défi n'importe quel gars musclé, j'en sais rien, The Rock, Dwayne Johnson, d'aller passer 12 heures en cuisine parce que c'est pas son métier.
Ce serait drôle.
Non, mais du coup, et de lui mettre une nana à côté dont c'est le boulot, le mec ne tient pas 3 heures debout.
C'est une affaire de mental, ça n'a plus rien à voir avec les muscles.
Et jusqu'où pourrait jouer une forme d'autocensure chez les femmes et une forme de cooptation entre hommes? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu observer, Bertrand Gribaud?
Ah, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des femmes qui s'interdisent d'aller plus loin dans leur carrière pour, je ne sais pas, sans doute pour, avec des ambitions de fonder une famille ou ce genre de choses. Aussi parce que, encore une fois, j'insiste, le modèle du chef, c'est quelqu'un d'extrêmement viril, omniprésent, qui dédie toute sa vie à sa carrière et que du coup, en fait, si on veut devenir chef, on ne peut pas faire des enfants d'office, puisque le modèle du chef, c'est quelqu'un qui est sans concession et qui laisse tomber sa famille pour exister. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, on est en train de prouver le contraire, sur des modèles beaucoup plus inclusifs, beaucoup plus collectifs, et on est en train de montrer aux gens qui travaillent avec nous que être chef de cuisine, c'est être avant tout un manager, un leader, mais que c'est un travail d'équipe et que de temps en temps, on sait passer le relais justement pour s'occuper de sa famille. Donc ça
permet... on n'a plus besoin de cette figure de l'hyper virilité à la papa, d'ailleurs de cette hiérarchie très militaire, puisqu'on parle de brigade, c'est pas pour rien. On est en train de changer de modèle. Je vous vois lever le doigt.
Ouais,
Nora,
parce que
je vous en prie.
Bertrand raison, et c'est sur le côté autorité. En fait, il y a aussi ce cliché qu'une femme ne pourrait pas avoir assez d'autorité pour en imposer, comme Bertrand l'écrit, en cuisine. Parce qu'évidemment, la cuisine a été pensée, à l'origine, la cuisine française, c'est une cuisine militaire, donc c'est les chefs des armées qui cuisinaient et qui, après, sont allés cuisiner pour Charles V. Donc, on parle, par exemple, de Taïwan, qui serait le premier chef français. Donc, c'était que des gars qui allaient cuisiner pour des familles royales, etc. Après, les bourgeois, eux, avaient plutôt des femmes, et encore, c'était les bourgeois qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Du coup, ça a été codifié par des gens, escoffiers, etc. Et on parle de brigade en cuisine, on parle de coup de feu en cuisine. C'est ça. Pas pour rien, quand même. Le vocabulaire lui-même est militaire.
Vous évoquiez tout à l'heure les écoles, type Ferrandi ou Cordon Bleu. Alors, les derniers chiffres que moi j'ai, 60% des diplômés de l'école Le Cordon Bleu sont des femmes, mais 50% chez Ferrandi. Vous-même, Bertrand Gribault, vous êtes passé par Ferrandi. Est-ce que c'est un sujet, le rapport de genre en cuisine? Est-ce qu'on vous en parle pendant votre formation de l'égalité homme-femme?
Alors, je pense que dans les moyens de changer les choses, il y aurait... Faudrait que ce sujet soit abordé dans les formations. Moi, j'ai fait Ferrandi, c'est pas non plus à la préhistoire, hein, c'était début 2000. Mmh. Et j'ai une anecdote, c'est que un de mes chefs professeurs respectable, hein, au demeurant, un jour, j'étais en train de passer la raclette qui sert à racler l'eau sur les carrelages après le nettoyage, et je le faisais assez mal, et il me dit Gribault, les raclettes, c'est comme les femmes, ça se tire.
Oh mon Dieu.
Donc, juste pour vous dire où on en est au niveau de la formation. Donc, alors j'imagine que ça a un peu évolué. Ensuite, bon, ça fait partie de ces blagues graveleuses, hein, qui sont banalisées dans les cuisines quand même depuis toujours. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans les formations. Et il se trouve que c'est un métier où il y a beaucoup de jeunes. Donc, il y a des équipes très immatures, sous pression. Donc, bon, il y a un cocktail parfait pour les dérives. Et dans les écoles, on forme des ouvriers, mais on ne forme pas des managers, donc il y a très peu de place pour ça.
Alors Constance est passée par Ferrandi en juillet 2016, elle témoignait dans le magazine Complément d'enquête, elle racontait ses débuts en cuisine.
C'était mon premier stage et probablement le dernier. Ça commence par « t'es une salope, une pute », c'est des réflexions comme « oh putain, je la prendrais bien par tous les trous ». Donc c'est des remarques assez sympathiques comme ça.
Des remarques désobligeantes ou graveleuses, mais aussi des coups de torchon noués et humides, raconte-t-elle. Ça fait mal, dit-elle, et puis une agression. Un jour commis par le second de cuisine, elle décide de s'en remettre à quelqu'un de confiance, son prof de cuisine.
Il m'a répondu mot pour mot. Constance, il faut que tu t'y habitues, ce sera comme ça toute ta vie. Mot pour mot. Alors là, je me suis dit, si lui ne m'aide pas, qui il m'aidera? Et donc j'ai abandonné l'idée de partir de ce restaurant et j'ai tenu jusqu'au bout, quoi.
Nora Boisouni ou Bertrand Gribault, que vous inspire le témoignage de Constance, là, comme ça, brut pour point?
Qu'on sait où sont parties toutes les femmes qui ne n'ouvrent pas de restaurant après Ferrandi ou après une autre école, par exemple. En fait, ouais. On n'a aucun soutien, mais c'est dans toutes les industries pareil, on le voit bien avec MeToo, que c'est pas que le cinéma, que la littérature, que voilà, donc c'est partout. Et on voit surtout que des gens, Bertrand en parlait, c'est des gens très jeunes qui arrivent, par exemple, en CAP, on a 15 ans quand on, si je dis pas de bêtises, on a 15 ans quand on arrive. Donc il faut former ces jeunes-là. 15 ans, qu'est-ce qu'on sait à 15 ans? En vrai, enfin, c'est compliqué. Et quand on arrive et qu'on est une jeune fille, une jeune femme, et qu'on a des remarques pareilles et qu'on te dit toute ta vie ça va être ça, je pense que le choix est vite fait.
T'arrêtes.
C'est comme pas compliqué de te dire ok, je vais peut-être pas subir ça pendant encore les 60 ans qui me restent à vivre. Ça m'inspire que c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle a vécu ça, cette jeune fille.
Bertrand Gribault.
J'ai envie de dire, j'ai presque vécu la même chose, c'est-à-dire que ça touche au-delà du sexisme, ça touche vraiment, la connerie touche vraiment bien le métier, et elle s'adresse parfois même aux hommes, donc il y a double, Il y a double mission là, il faut d'abord travailler.
Que les rapports humains,
les rapports humains sont de toute façon inouïe. Assez violents en cuisine, c'est ce que je dis, c'est le milieu de la cuisine est quand même un milieu ouvrier dans le fond, même si ça a été médiatisé et glamourisé, c'est des gens d'ailleurs, c'est des ouvriers sur qui on a mis la lumière d'un coup et qui ont pas forcément d'ailleurs les armes pour gérer tout ça et dans les formations, on apprend à faire la blanquette de veau mais pas les rapports humains, pas la transmission, pas. Donc, sous pression, jeune, sans formation, ben, on fait n'importe quoi.
Vous évoquiez MeToo à l'instant. MeToo semble pour l'instant avoir épargné le milieu de la gastronomie française, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, par exemple. Là, en France, on a des milieux qui, les uns après les autres, commencent à bouger et la cuisine, non. Pourquoi, Nora Boisoun ? Qu'est-ce qui se fait que rien ne sort des cuisines ?
Moi, je trouve ça. On en parle régulièrement dans les gens qui soit aiment manger, soit écrivent dessus, soit les deux. Je pense que la France est et se croit une exception mondiale. Il y a un bouquin qui s'appelle La culture du viol à la française que Valérie Robert a écrit
oui,
et on
bien,
peut d'ailleurs. En parler là pour tous les milieux. La France se croit au-dessus des lois. Des comportements problématiques, des comportements que la loi peut sanctionner. Sur la gastronomie, c'est encore pire, puisque on est le pays qui a inventé la gastronomie. On a ensuite la nouvelle cuisine. Enfin, voilà, on est le pays de la gastronomie. On est un pays très touristique. La gastronomie, c'est un des leviers d'attraction touristique et on a les plus grands chefs étoilés, etc. On n'a pas voulu regarder un peu ailleurs. Les classements, quand des classements comme 50 Best vont voir ailleurs, il y a un tollé général avec un appel au boycott par des chefs français, des vieux hommes blancs qui n'ont plus de cheveux. J'ai rien contre les chauves. Hein.
Mais, moi, je les aime bien,
du coup,
les chauves.
On a vraiment une espèce de... Moi aussi, j'aime bien les chauves. Hein. Nos amis chauves qui nous écoutent, je n'ai rien contre vous. J'ai plein d'amis chauves, hein. Je ne suis pas chauviste. Non, mais du coup... On a l'impression qu'il y a un bastion chasse gardée et qu'on est les meilleurs et que du coup, rien ne doit nous faire tomber de cette espèce de podium de la gastronomie et on s'estime au-dessus des lois. Il y a une omerta aussi parce que c'est un milieu qui reste très fermé, comme plein de milieux.
Mais fermé même physiquement, c'est-à-dire que la cuisine,
oui,
elle est fermée.
Alors,
en fait, on ne voit pas ce qui se passe derrière les portes.
Il y a la promiscuité qui est quand même vraiment très... typique pour ce genre de milieu, qui est très rare en fait d'avoir une telle promesse dans des cuisines qui sont petites, hein, notamment dans les villes à Paris où les loyers sont très élevés. On a des petites cuisines qui sont certes ouvertes, mais ça empêche peut-être les gens de voir ce qui s'y passe aussi, parce que quand on veut empêcher les gens de voir, on y arrive très bien. Mais en France, voilà, on est exceptionnel apparemment.
Bertrand Gribaud, est-ce qu'il y a une culture du silence qui serait propre à la restauration française, à la gastronomie ?
Ouais, il y a une culture du silence, mais surtout il y a une histoire de mérite là-dedans. J'ai l'impression que pour devenir un chef et de mériter sa place et mériter le droit d'exister en tant que chef, il faut être passé par cette souffrance. Donc là, ça va au-delà du sexisme. Hein, c'est pour ça que je disais, j'ai vécu à peu près la même chose. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on apprend l'excellence à la française, et je rejoins ce que tu dis, on doit d'abord subir tout et n'importe quoi avant de mériter sa place. Quoi.
Et se redouble sur des femmes une condition encore plus difficile parce qu'elles n'y ont pas leur place, quoi.
Ouais, bien
on
sûr.
Considère qu'elles n'ont rien à faire là.
Oui, puis qu'il faut les faire souffrir encore plus. Si tu veux, quand on est une femme, on doit travailler encore plus que les hommes dans tous les milieux pour se faire reconnaître.
On n'est pas là pour
plus.
Souffrir.
Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Non, mais voilà, il y a cette chose. On le sait très bien quand on est une femme dans tous les milieux. Il faut travailler deux fois plus qu'un homme.
Alors forcément, elles sont rares à témoigner de ce type de violence dans la restauration. Candidate l'an dernier dans l'émission Top Chef, Alexia Duchesne l'a fait. Écoutez.
Bah dans les cuisines, genre de resto étoilé, les mecs qui te mettent la main au cul, qui te parlent mal. J'ai reçu des textos genre quand j'avais 15 ans, à 2h du mat, de mecs qui me disaient « viens chez moi ce soir » et tout. Bah ouais, bah les mecs sont des ouf, hein, je veux dire, à un moment donné, faut que ça s'arrête. Et c'est que en allant dans des restos où il y a plus de jeunes, plus de gens qui ont bougé, qui ont voyagé, qui ont vu autre chose, qu'on arrivera à avoir un environnement de travail à peu près genre normal, quoi.
Elle rejoint ça, ce que vous disiez, Bertrand Gribaud, c'est que on va compter quoi sur une nouvelle génération de chefs et de chefs hommes et femmes pour que les choses bougent.
Ouais, alors il faut compter sur une nouvelle génération de chefs. Il faudrait que ceux qui sont en partie responsables de tout ça passent l'arme à gauche, enfin ou en tout cas partent là.
Je suis assez d'accord.
Première émission directe de l'année, on souhaite la mort de pas mal de monde.
Non, mais en tout cas partent à la retraite, puisque ouais. C'est plutôt de retraite qu'on parle en ce moment. Ouais, je pense que et puis heureusement les chefs de la nouvelle génération voyagent, font leur expérience pas uniquement en France et il y a des exemples de gestion de l'humain quand même plus positif à droite à gauche dans le monde, que ça soit chez les Scandinaves, en Australie, ouais. Au Danemark, aux États-Unis. Donc Voilà, je pense que ça bouge quand même.
Nora Bozzoni, je vous voyais plus sceptique.
Oui, je suis un peu sceptique. Je suis pessimiste, mais j'ai de l'espoir quand même, sinon je serais plus là. Moi aussi, j'aimerais bien que tous ces mecs se cassent un peu et fassent de la place. En revanche, il y a quand même... Ces gens sont... la nouvelle génération, etc., est formée par des gars qui peuvent dire à quelqu'un « habitue-toi » ou qui font la blague, des blagues pourries sur la raclette, c'est comme une femme. Et en fait, moi, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, des jeunes chefs, donc qui ont genre 30 ans, et qui reproduisent la façon dont ils ont été traités. Et qui le disent. Et en fait, parce qu'ils n'ont pas vu autre chose, et que pour eux, c'est ça une cuisine, et que tout le monde ferme sa gueule, ça doit être comme ça que ça se passe et que ça se fait. Donc, il y a aussi... Et on en parlait tout à l'heure, et on en revient en fait au nerf de la guerre de l'antisexisme, etc. C'est la formation, c'est l'éducation. Mmh. Et si dans des grandes écoles ou des petites écoles, on s'en fout, mais partout, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire, etc. Et dans les écoles de restauration où on sait qu'il y a une promiscuité, où les gens sont très jeunes, etc. S'il n'y a pas de formation, c'est parce qu'il n'y en a pas. À Ferrandi, il n'y en a pas. J'ai eu le directeur au téléphone il y a quelques semaines. Poser la question, il était un petit peu embêté, j'avoue. Et il m'a dit, oh oui, dans les cours, peut-être qu'on en parle, mais non, il n'y a pas de formation là-dessus, et ça n'est pas normal.
Vous savez quoi, on va se donner rendez-vous dans 10 ans, comme dirait l'autre. Hein. Alors elle, c'est une femme, et puis c'est toutes les femmes, babydoll à grandes chaussettes, punky trash au crâne rasé, elle a eu la bouche en cœur, et le rimel dégoulinant à la fois, inclassable, adorable, détestable, Britney Spears, elle est ici, chez elle. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do I think I'm done? Losing my hands, spinning down. Toxic, titre culte de Britney Spears, pour un aller-retour express en 2003. Au passage, on attrape Isabelle Motreau, directrice de la rédaction de Cosette, et Thomas Messias, auteur du podcast Mansplaining. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Ravi de vous revoir. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2020? Allez, Isabelle, on vous souhaite quoi?
À moi, des millions de lectrices.
Ah bah évidemment.
Pour Cosette.
Quelques lecteurs aussi quand même ou...
Oui, bien sûr, je dis lectrice, mais c'est lectrice et lecteur.
Bien entendu. Thomas Messias, on vous souhaite quoi?
On me souhaite des enfants qui dorment un peu plus tard le matin.
Les chameaux, quelle heure?
7 heures, dans le meilleur des cas.
C'est déjà joué à Bertrand Grébeau qui lève la main aussi, qui dit moi aussi je veux bien.
Ouais.
Quelle heure les vôtres?
Non, en fait, moi, ils se lèvent assez tard parce qu'ils ont un peu mon rythme, mais ils se couchent très tard du coup aussi.
Quelle heure?
Ah bah le tout petit, mais il est tout petit. En ce moment, il dort pas avant 1h du matin. Et la petite, elle...
Ah mais non, mais moi, je les rends dans ces conditions-là. Je les ramène au magasin. J'ai pas encore trouvé le magasin où on pouvait les ramener. Mais je... Ah, ils les prennent pas.
Non, ça marche pas.
Nous, on se souhaite encore quelques belles balades au pays du genre tous les vendredis sur France Inter. En l'occurrence, ce soir, nous sommes en compagnie de l'autrice et journaliste Nora Boisouni, du chef Bertrand Grébeau et d'un ogre en déambulateur. Si, si.
France Inter, passons genre.
Officer! Mr. Weston, what is gonna be your legacy? What do you expect from this year?
Ça, c'était en début de semaine au tribunal de Manhattan. L'homme au déambulateur, c'est l'ancien baron du cinéma américain, Harvey Weinstein, ex-patron de Miramax. Poursuivi pour viol et agression sexuelle, il plaide non coupable, un axe de défense qui ne vous surprend pas tellement, Isabelle Motreau.
Absolument, ça ne me surprend pas du tout. Pas que moi, à peu près tout le monde. Petit récap, on est au premier procès de Weinstein, qui avait été donc dénoncé par le New Yorker et le New York Times en 2017. Pardon.
Je vous en prie.
Excusez-moi, ça me...
Faites comme chez vous, vous êtes ici, chez vous, et moi aussi
je l'attends. Il m'impressionne, vous voyez, par...
par le nombre de plaintes ou par le nombre d'accusations?
Voilà, le nombre de plaintes, 80 femmes quand même, qui avaient accusé, voilà. Alors là, on est au premier procès qui a commencé lundi dernier, lundi 6 janvier. Alors, le procès est symbolique, parce que je vous rappelle que là, il est jugé pour 2 accusations seulement. Parce que la plupart des autres accusations, sont trop anciennes, ou bien sont en train d'être transformées, puisqu'il a signé, Harvey Weinstein, un accord, une négociation, et il devrait allouer 25 millions de dollars aux dizaines de femmes qui ont lancé une action en justice contre lui. Et si cet accord est accepté, il n'a pas à reconnaître ses torts.
D'accord.
Donc, Ce qui est très étonnant dans ce procès, c'est que il nie. Il est dans le déni total. Mmh. C'est-à-dire que il dit, il pérore. Il a déclaré à la presse : j'ai produit plus de films réalisés par des femmes et sur des femmes que n'importe qui. Je l'ai fait le premier. C'est moi le pionnier du genre.
Ça, c'est mon meilleur ami est noir, quoi.
Voilà, exactement.
Enfin, si je suis claire sur le parallèle.
Il y a un proche qui a confié d'Harvey Weinstein qui a confié à CNN qu'il a le sentiment qu'Hollywood lui doit des excuses et que en fait, lui pense qu'il va s'en sortir et qu'il sera de nouveau le bienvenu dans son ancienne vie, dit ce proche. Et puis on l'a vu puisque il y a en octobre 2019, il s'est pointé à une soirée de stand-up dans un bar de Manhattan. Il y a une des comédienne qui l'a prise à partie, mais...
Fleur au fusil, quoi.
Voilà, il ne comprend pas bien. D'ailleurs, il n'a pas été sorti du restaurant. Il a été accepté et il est resté.
Ils sont quand même incroyables. Et quand je dis ils sont, Isabelle, c'est parce que c'est assez récurrent.
Voilà, ça m'a fait penser, en effet, à d'autres personnages, comme Tariq Ramadan, par exemple.
Accusé, je sais pas si viol, vous vous souvenez. Poursuivi pour viol, lui.
Absolument,
aussi,
ouais. Qui s'était invité à un meeting qui était intitulé... Incroyable, lutter contre les violences faites aux femmes au quotidien. C'était
pardon,
en Seine-Saint-Denis, mais
oui,
en mars 2019. Le gars se pointe. Évidemment, on lui demande de sortir. Il est resté 40 minutes. Et ensuite, il est parti. Et puis, finalement, ça fait penser aussi à Mads Neff. Gabriel Mads Neff, qui a réagi au livre de Vanessa Springora.
Qui est le choc littéraire de la rentrée.
En publiant une lettre ouverte à l'Express dans laquelle il réfute en bloc absolument toutes les accusations, il fait aucun mea culpa, il demande absolument pas pardon, il se justifie. Et donc,
Comment est-ce qu'on explique ça, voilà, cette espèce, ce tel sentiment de d'impunité,
ben,
c'est
très étonnant.
Ce déni à toute épreuve,
c'est
il se passe quoi,
étonnant,
en fait.
C'est très étonnant, parce qu'effectivement, vous n'avez pas de hold-uppers qui vont se dédouaner en disant « Ouais, mais la banque était ouverte, c'est pas de ma faute », etc. Ça n'existe pas.
J'aime bien le parallèle.
Voilà, non mais les crimes sont des crimes acceptés, en tout cas par les
criminels eux-mêmes.
Les criminels eux-mêmes.
Ils vont pas contester la réalité du crime.
Sauf les agressions et les viols. Alors pourquoi ? Alors ben en fait parce que, hélas, le cas de l'agression sexuelle est toujours pas très clair, encore aujourd'hui. Et je vous donne un exemple. La dernière enquête de Mémoire traumatique et victimologie, c'est une association qui fait des enquêtes sur donc les traumatismes et la victimologie.
C'est pas des petites enquêtes, hein, c'est voilà, des enquêtes à grande échelle.
Grande échelle. Ont, ouais. En 2015, ils avaient fait une enquête et 19% des Français pensaient que pour beaucoup de femmes, non veut dire quand même un peu oui. 19% des Français. Hein. Alors, ils ont refait une enquête en 2018 et pour voir si MeToo était passé par là, ouais, avait changé les choses. Alors oui, ça a changé des choses. C'est-à-dire que 83% des Français pensent que MeToo a été bénéfique et un effet positif sur la libération de la parole des femmes. Mais en ce qui concerne les stéréotypes sexistes, eh bien 43% des Français pensent encore que se défendre, ça ferait fuir le violeur. Et pire que ça, 42% des Français, et ils étaient que 40% en 2016, pensent qu'une attitude provocante atténue la responsabilité du violeur.
C'est hallucinant. Je pense qu'un chiffre de plus et Nora Boisouni se jette par la fenêtre.
Ouais, j'ai envie de pleurer là. Et puis, combien de Français pensent qu'on n'a pas d'humour aussi, les féministes?
C'est vrai qu'il faudrait le savoir. C'est tellement drôle un viol, hein, franchement.
Donc voilà, donc c'est ça qui explique que cette sensation qu'un viol n'est pas vraiment un crime, ouais, ben évidemment, on est dans cette culture du viol dont vous parliez, elle est vécue de l'intérieur par les violeurs eux-mêmes.
Et c'est fou que ça ne bouge pas à ce point-là. Est-ce que, alors, si on en parlait en antenne, si MeToo a des conséquences, on les verra peut-être un jour, peut-être même pas de notre vivant. Mais pour nous-mêmes, Bertrand Gribault, est-ce que vous, ça a changé quelque chose? Cette affaire Weinstein et puis tout ce qui s'en est suivi, la déferlante MeToo, Balance ton porc et compagnie, est-ce que ça a participé chez vous d'une prise de conscience?
Ah oui, complètement, ouais, je pense. Mais j'ai pas l'impression, par contre, que dans mon métier, ça ait vraiment changé quelque chose. Je pense qu'on a quand même tendance toujours à banaliser à mort tous les gestes déplacés dont parlait Alexia, notamment,
Si on profite de ce tout début d'année pour se projeter un petit peu, personnellement, j'étais plutôt pessimiste il y a 2 ans. Je pensais que MeToo s'effondrerait comme un château de cartes et qu'il n'en sortirait rien. Là, 2 ans après, on y est toujours. On prend notre boule de cristal, Thomas Messias. Est-ce qu'on va déboucher sur quelque chose? Est-ce que le fait de se dire que 2 ans après, on en parle encore, ça veut dire qu'il y aura un avant et un après?
Alors oui, mais moi je pense que non seulement on le verra pas de notre vivant, mais je suis pas sûr que mes enfants le voient non plus de leur vivant, et je pense que ça va encore prendre quelques générations.
Pourquoi ?
Et je pense qu'on est dedans, mais les choses avancent tellement lentement. Et puis nous, on a aussi le problème du prisme déformant. On est des personnes intéressées par ces sujets, on lit, on se documente au quotidien sur MeToo et ses à côté. On a des tas de gens qui, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas envie, n'ont pas les moyens d'avoir ces réflexions. Et du coup, pour ces gens, qui ne sont pas à blâmer, hein, parce que pour beaucoup, ils ne sont même pas responsables, eh bien, on est sur un statu quo total. Et je pense que ça va encore prendre beaucoup de temps avant que la majorité des Français et des Françaises notamment soient sensibilisés.
Isabelle Motreau ?
Moi, je suis moins pessimiste que vous quand même. Je trouve que les choses ont quand même changé. Je trouve que les jeunes femmes, les jeunes filles sont beaucoup plus conscientes qu'on pouvait l'être, surtout moi qui suis beaucoup plus vieille que vous, à mon époque.
Quelques
mois. Et puis, on est là sur France Inter en train de faire une émission sur le genre quand même. Bon.
Et pour le coup, c'est la première fois que ça existe.
Et ça marche très bien, sur les questions, j'ai cru comprendre.
On est pas mal.
Bon, vous voyez.
Ce qu'on peut mesurer, c'est-à-dire les podcasts, voilà. On est pas mal. Donc merci à celles et ceux qui nous écoutent.
Nora Boisouni. Ouais, moi je suis un peu pessimiste aussi parce que on parle de podcast par exemple, on parle de mansplaining, je ne connais pas le genre de l'audience de Thomas
sur slate.fr.
Sur slate.fr.
Je parle de masculinité mais ce sont des femmes qui m'écoutent en majorité.
Voilà. Et ben les couilles sur la table chez Binge, c'est la même chose. Qui achète les bouquins? Qui écrit les bouquins sur la masculinité? C'est quand même beaucoup de femmes. Qui les lit? C'est beaucoup de femmes.
Sauf et en fait que Sauf qu'on a vu quand même, justement, cette fin d'année 2019, des hommes commencer à sortir du bois. Alors, on en pense qu'on veut, mais il y a eu Yvan Jablonka, il y a eu dans la rue, au moment de la marche organisée par nous toutes le 23 novembre, il y avait beaucoup plus d'hommes que l'année précédente. Il y a eu cette tribune dans Libération. Donc, ils sont encore minoritaires, mais ils sont quelques-uns quand même à prendre fait et cause. D'ailleurs, vous êtes là, Bertrand Grébeau, c'est pas pour rien non plus.
Ouais, je suis là, mais quand même, j'ai envie de faire un parallèle avec l'engagement durable aussi. Si vous interrogez tout le monde est évidemment d'accord que il faut sauver la planète, que le réchauffement climatique c'est un drame, mais en même temps, c'est pas encore ça, quoi. On a encore des ventes de phytosanitaires plus élevées en 2019 qu'en 2018. On a encore la courbe du réchauffement climatique qui est pas du tout inversée. Donc, je suis assez pessimiste aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, ça bouge, on a un vrai tournant. Mais dans l'intention surtout, dans les actes
Dans les discours. En tout cas, le procès Weinstein devrait durer à minima 8 semaines, donc on va pouvoir en reparler jusqu'à début mars, au moins. Oui, Isabelle.
Il y en a un deuxième, attention, il y en a un deuxième.
Oui, le premier.
Un procès peut en cacher un autre.
On va avoir la matière en tout cas.
Il faut y croire.
Alors vous, Thomas Méchès, vous vouliez nous parler non pas d'une, mais de plusieurs images. Cette semaine, toutes tirées du nouveau beau livre de Claire Gallagher, The Second Shift, livre repéré et salué par The Guardian. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales, ces images?
En fait, Claire Gallagher, c'est une femme et mère de famille et photographe professionnelle qui s'est dit qu'elle allait se mettre à immortaliser des choses telles qu'un panier à linge qui déborde, un évier qui regorge de vaisselle sale, une poubelle qui aurait dû être vidée depuis bien longtemps ou un cendrier. Son objectif, c'est de montrer ce qu'on a tendance à ne pas regarder, notamment nous les hommes, les choses sur lesquelles, dont on a tendance à détourner le regard en fait. Son but, c'est vraiment, selon ses propres mots, c'est d'émettre une sorte de colère silencieuse à travers ses clichés, de dire voilà, ça ne peut plus durer. Les maisons, voilà à quoi elles ressemblent quand les femmes ne prennent pas tout en charge. Et d'ailleurs, le livre s'appelle Second Shift parce que ça fait référence à cette fameuse seconde journée de travail dont on a parlé notamment dès qu'on a commencé à avoir ces débats plus amples sur la charge mentale. La deuxième journée des femmes, elles terminent leur travail, ensuite en rentrant chez elles, elles doivent assurer absolument toutes les tâches domestiques. Donc c'est vraiment l'objectif de ce livre et les photos sont magnifiques en plus, c'est ça qui est vraiment troublant.
Je suis d'accord avec vous. Et on parlait d'impact de ce mouvement, de cette époque qu'on est en train de vivre là, et des mouvements féministes actuels. Est-ce que vous pensez que ce livre peut y participer? Est-ce que c'est en faisant des photos de poubelles, par exemple, qu'on va se rendre compte de l'ampleur des tâches ménagères?
Mais je pense que tous les moyens sont bons. C'est ce livre, plus des films, plus des interventions dans les médias. Je pense que c'est vraiment chaque petite pierre qui va forger ce grand édifice, qui va faire que de plus en plus d'hommes, peut-être, vont prendre conscience qu'il faudrait peut-être qu'ils se bougent les fesses et qu'ils empoignent une éponge ou un aspirateur, quoi.
Et alors, vous parlez, pour le coup, ça sent un petit peu le vécu hein, pour vous, parce que c'est par le biais de l'art que vous êtes venu vos concepts de charge mentale, Thomas. On va entendre un extrait d'un film qui s'appelle La vie domestique, réalisé en 2013 par Isabelle Tchachka. Est-ce que vous pouvez juste nous resituer, nous donner quelques éléments du pitch?
Eh bien, ce sont 24 heures de la vie d'une femme qui a un mari très occupé, qui a deux enfants et qui postule pour un emploi qui lui fait très envie, mais qui va vite se rendre compte que malheureusement, on ne peut pas tout concilier.
Et à l'écran, on retrouve Emmanuel Devos, alias Juliette, face à Thomas, son mari, incarné par Laurent Poitrenaud.
Bon, tu veux que j'achète quelque chose pour ce soir?
Je sais pas. Du beurre salé?
Ah, du vin. Tu veux pas plutôt que je m'occupe du vin? Je passe devant le caviste en rentrant.
Comme tu veux.
Oui, mais je fais quoi alors?
Ce que tu veux.
Vous êtes dit quoi, Thomas Méchias, en voyant ce film?
Eh ben, je me suis dit que je voulais surtout pas ressembler aux hommes du film, parce qu'il y a effectivement ce Thomas, en l'occurrence, qui est très bien prénommé. Je veux parler Laurent Poitrenaud, mais il y en a aussi toute une panoplie d'hommes qui rentrent chez eux le soir et qui font comprendre à leurs femmes qu'ils sont fourbus, qu'ils ont une grosse journée et que ils espèrent qu'elle a quand même préparé un bon repas parce que eux ils ont quand même acheté le pain en rentrant quoi.
Et le vin.
Et le vin. Le vin.
Je passe chez le caviste.
Exactement.
C'est pas du tout je vais faire un tour au 7 à 8 quoi. C'est, je passe chez
c'est
le caviste.
Le vin, c'est important.
Dans votre livre Féminisme, Nora Abouazouni, il y a un certain nombre de chiffres, hein, sur les tâches domestiques, les tâches ménagères au quotidien. Est-ce qu'on peut les rappeler?
Je les ai là, ça tombe parfait. Très bien, justement. En France, c'est plus de 70% dans un couple hétérosexuel des femmes qui prennent en charge les tâches ménagères. Ça comprend la cuisine, par exemple. Et il y a un chiffre qui est assez, deux chiffres qui sont assez terribles. Donc c'est selon l'INSEE, entre 99 et 2010, le temps moyen journalier consacré par les femmes au travail domestique a baissé de 22 minutes. Là, on se dit, génial! Et celui des hommes a augmenté d'une minute. Donc, merci le micro-ondes et la machine à laver pour les couples qui peuvent se permettre d'en acheter. Et un chiffre sur la cuisine en particulier, toujours selon l'INSEE. La baisse du temps consacré à la cuisine pour les femmes, c'est moins 19 minutes en 25 ans entre 86 et 2010. Mais c'est pas parce que les hommes en font plus.
Alors ma charge à moi, notre charge à nous, c'est aussi de vous passer de la bonne musique dans cette émission. Ça n'est pas pour nous déplaire, surtout quand c'est George Smith, étoile montante du hip-hop british avec Burna Boy en featuring. Ça donne Be Honest et ça, c'est de la playlist France Inter. Oui madame.
I know you want me. Every day not only when you're lonely, yeah. You see, you think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and
tell me, do you want me on top? So let me show you, I don't need to back it up. Don't wanna hold you, more, just go, just split you in half in my heart. Trusting you, honor you, please do the same on your part. Be honest, you want this. I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want this. I can be heartless, regardless of my conscience. Take time, you know, stay around whenever I see bad mind. Before you come my way, make sure you think twice. Into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. We'll never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make your bed, then you can lie. Just please don't waste my time.
About the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy because I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under a spell, I'm under your love. I don't know why nobody want me. Me say my baby today do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I
be honest.
Et si George Smith s'est retrouvé dans vos enceintes, c'est grâce à lui, Thierry Dupin, notre programmateur musical. Vous en retrouvez comme toujours toutes les références sur franceinter.fr à la page de Passons Genre, exactement à l'endroit où vous pouvez nous podcaster, et ce sans aucune modération évidemment.
Passons Genre, Julia Foyce.
Gilles Gaillard est à la technique ce soir, Marie-Annick Rimbaud à la réalisation, Camille Poux-Jalaguier fait son grand retour comme attachée de production et je m'en réjouis. De ce côté-ci de la vitre là avec nous, nous avons Thomas Messias de Slate. Je viens de dire nous en parlant de moi, c'est ce qui fait. Je commence l'année en Alain Delon, je ne sais pas ce qui se passe. Également présente ici Isabelle Motreau, directrice de la rédaction de Cosette, l'autrice Nora Boisouni pour son essai Féminisme et Bertrand Gribaud, chef et fondateur du Septime, entre autres trois autres restaurants.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous donner les noms ?
Clamato, qui est un bistrot marin, La Cave, qui est un bar à vin pour les jeunes, et puis Dunil, qui est une maison d'hôtes dans le Perche.
Eh ben voilà, c'est dit, comme quoi il n'y a pas que Paris, c'est dit aussi aller dans le Perche. Donc bref, que du Bollinger ici pour faire entrer l'année 2020 dans notre labo du genre. Et ce labo, c'est quoi ? Eh bien, c'est un endroit parfaitement virtuel où nos invités viennent déposer chaque semaine leur idée du féminin et du masculin, ce de façon totalement subjective, sinon c'est pas rigolo du tout. Nora Boisouni, quel objet raconte au mieux votre féminin ? À vous, rien qu'à vous.
Eh bien, je vais faire la meuf hyper originale, mais genre exprès originale, celle qui est relou.
Okay.
Moi, c'est immatériel, c'est du parfum. Alors, c'est pas forcément un parfum, enfin, j'en ai plusieurs en tête. En fait, pour moi, une vraie femme, quand j'étais petite, puis ado, c'était une femme qui avait du parfum.
Ouais.
Et puis, j'ai toujours aimé transgresser les choses, faire pas ce qu'on attend de moi. Et du coup, quand j'étais plus jeune, très jeune, quand j'étais au lycée, quoi, je mettais exprès des parfums qui allaient pas. Enfin, genre, ok, je portais Le Mal de Jean-Paul Gaultier, quoi.
Uh-huh.
Et puis après, j'ai porté Chalimar. Donc je sentais, je cite un, oh, tu sens comme ma tante, on me disait, comme ma grand-mère. Mais, et du coup, j'étais en gros baggy, genre skateuse et tout, et j'aimais bien justement le décalage entre Chalimar, hyper poudré, machin, et ma tenue. Et Le Mal, je le portais quand j'étais en jupe, machin, bottes et tout, quoi. Donc le parfum, ça a toujours été un truc que, je sais pas, j'adore, enfin, je suis très sensible aux odeurs, notamment au parfum. Et pour moi, c'était plus un truc de femme que d'homme, même si je me souviens d'un prof de français, de littérature, qui portait habit rouge de Guerlain, que j'aime, voilà.
Isabelle
et qui portait une veste cacharelle. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, le parfum, c'est un truc qui pour moi est toujours féminin. Et j'ai un truc avec les odeurs, surtout les odeurs des femmes.
Et quand est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez au-delà d'un individu, qu'en tout cas, aux yeux de la société, vous alliez être avant tout une femme, ou en premier lieu une femme?
Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'être une femme. En fait, quand je vois des femmes, et pour moi, c'est pas du tout quelque chose de nécessairement physique, de vêtements, il y a un truc dans la gestuelle où moi, j'ai l'impression de pas être une vraie femme. Genre,
La société vous renvoie ça.
Ben, ça dépend.
De toute façon, avec un F sur votre carte d'identité, vous êtes une femme.
Mais du coup, en plus, j'aime pas quand on dit, t'es une fille, non. Je dis pour faire chier, non, je suis une femme, je suis pas une fille, donc on dit pas les garçons, on dit les mecs, on dit les hommes. Mais du coup, je sais pas, je suis une femme, mais j'ai pas l'impression d'être une femme. Une femme.
Avec toute la. Avec la cohorte d'images qu'il y a.
Ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un côté un peu masculin. Alors, même quand j'avais pas les cheveux courts, il y a un truc un peu, je sais pas. Parce qu'on en parlait au début, je parle fort, je dis des gros mots, je bois pas mal.
Mais c'est pour ça que vous êtes parfaitement notre genre, point. C'est tout, c'est comme ça.
Merci.
Bertrand Gribaud, qu'est-ce qui incarne le plus sûrement votre façon d'être un homme ? Et attention, là, Bertrand se penche sous la table. Il a un sac, je crois. Il fouille à l'intérieur. Et voit... Ah, mon Dieu !
Oh, mon Dieu ! C'est un couteau japonais.
Bravo ! Ouais. Bravo, Nora ! Alors c'est quoi ?
C'est un couteau japonais que j'ai acheté durant le long voyage de 7 mois que j'ai fait avec ma compagne avant d'ouvrir Septime et les autres adresses. Un couteau, pourquoi ? Parce que ça symbolise mon métier. C'est quand même avec ça que j'ai réussi à exister, à me sentir bien dans mes pompes et à exister de manière générale, donc en tant qu'homme. Parce qu'avant, j'ai quand même surtout rien foutu avant de découvrir ce métier.
Vous étiez dans le graphe, je crois.
Ouais, voilà. Ouais. Mais plutôt illégal, donc c'était pas très constructif. C'était assez risqué. Et puis aussi, me lier à ma compagne, puisqu'elle fait le même métier. Ouais. Donc, c'était un peu un moyen aussi de parler d'elle et de mes enfants. Puisque, de toute façon, le moment où je pense où j'ai réalisé vraiment que j'étais un homme, c'est cette première naissance.
Eh bien, voilà, ce parfum et ce sabre vont rejoindre l'ICO, notre labo du genre, endroit délicieusement bordélique. Hein, 4 mois seulement après le début de cette émission, puisqu'on y retrouve pêle-mêle un maillot de foot, un pot de confiture, une paire de ciseaux, une autre d'aiguille à tricoter, des ouïes de violoncelle tatouées, un vélo, des clés de vélo, c'est plus pratique avec, c'est vrai. Et j'en passe. Allez, passons, genre, c'est terminé pour ce soir. Merci à tous, à toutes de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus nous voir. Nora Boisouni, Féminisme, c'est aux éditions Nourriture Fût. Bertrand Gribaud, Septime, c'est rue de Charonne dans le 11e. À Paris, en attendant, goût avec les yeux votre cuisine sur le compte Instagram de Septime Paris. Isabelle Motreau, quoi de neuf pour Cosette ?
Ah ben, quoi de neuf ? On est toujours en kiosque avec une enquête sur... on a infiltré des anti-IVG. Donc c'est dans l'actu, là, avec l'affichage que vous connaissez à Gare du Nord.
C'est un affichage anti-IVG.
Anti-IVG, qui mais qui dit pas contesté, son nom.
Voilà.
Et voilà. Et on a infiltré ce genre d'association, mouvement, je sais pas comment on dit. Et on a analysé leurs méthodes qui sont pas du tout transparentes.
Et le tout, on le rappelle, alors qu'on s'apprête à célébrer les 45 ans de la loi Veil. Thomas Messias, vous commencez bien l'année. Je crois qu'il y a une double actualité très rapidement. Vous pouvez nous en dire un mot de chaque. Il y a un livre d'abord.
Eh bien, un livre qui s'appelle Valérie Donzelli, Le tourbillon de la vie. Un petit essai sur la réalisatrice de Notre-Dame qui est sorti en décembre. Donc ça apparaît cette semaine. Et puis le dernier épisode de mon podcast Mansplaining qui parle du film Un vrai bonhomme qui est sorti en salle ce mercredi.
Et ça, c'est sur slate.fr. On se dit à très bientôt, juste après le flash. Ce sera Laurent Goumard, Côté Club.